السلام عليكم ورحمة الله. في صوت عبد العزيز؟ في صوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث كثيرا بهم عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله وبياكم ومرحبا بكم avec nous ce soir. Nous sommes inshallah ta'ala mercredi le 7 min shahr Rabi' al-Thani 1428 de l'Hégire, c'est-à-dire le 25 avril 2007 d'après le calendrier des chrétiens. Avant de commencer le nouveau dars, on va réviser juste un peu qui n'a pas la saveur halawat al-iman, pour quelqu'un qui n'a pas halawat al-iman dans son cœur. Mais bien sûr que les salafs ne rataient presque jamais salat al-layl. Quand je dis presque jamais, ce n'est pas yani chaque soir, mais avaient un programme, yani ils étaient très soucieux d'appliquer ce programme. Yani la prière de la nuit rentrait dans leur programme. Il existait dans leur programme. Maintenant, de nos jours, elle n'existe pas beaucoup dans notre programme. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la foi est faible, mais il reste toujours des gens, mashallah, qui font la prière de la nuit. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a parlé de cela, il a dit تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا. Il a dit تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ, c'est-à-dire, il a dit leur flanc, en parlant des gens pieux, bien sûr, il a dit leur flanc, le côté sur lequel on dort, hein, il a dit les deux côtés, leur flanc, sont loin de quoi? Sont loin des lits, de leur lit. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en train de dormir. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire la prière la nuit. Ta'amallah, écris-moi s'il y a le son. Barakallahu fikoum. Je vous ai dit de m'écrire à peu près toutes les 5 minutes. Alhamdulillah. Je disais, la prière de la nuit, c'est le délit que quelqu'un est, masha'Allah, pieux, et que ce quelqu'un est, masha'Allah, sincère. Parce que le jour, c'est très facile de faire la prière la journée. Mais la nuit, on est seul, personne ne nous voit. Et nous, on voudrait, si on fait la prière, que les gens nous voient. Donc c'est difficile de la faire. Il faut être vraiment sincère pour qu'elle ne soit faite qu'à Allah subhanahu azza wa jal. Et il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se trouve dans le Bukhari. An Abdillah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu a dit qala li rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit. Qu'est-ce qu'il m'a dit? لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. C'est dans le Bukhari, hadith 1083. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de donner des conseils à Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu. Naam. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui a dit dans ce conseil? Il lui a dit ne sois pas comme X. le rapporteur du hadith n'a pas noté qui c'est ce X. Alhamdulillah, il l'a pas noté, c'est mieux. Il reste comme ça, personne ne connaît ce X, parce que le prophète nous demande ici de ne pas l'imiter. Donc il lui a dit, ne sois pas comme X. Que faisait X? Il lui a dit, X faisait la prière de la nuit, ensuite il l'a délaissée. Donc c'est dire que celui qui fait la prière de la nuit, il ne doit pas la délaisser. C'est pour ça que si quelqu'un veut faire la prière de la nuit pour être dans les rangs des hommes pieux, et qu'on faisait des salafs, radiallahu ta'ala anhum, il ne faut pas qu'il alourdisse son programme. Il ne faut pas qu'il dise, classe, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus m'arrêter. Chaque nuit, je vais me lever à 2h du matin ou à 3h et faire 2 ou 4 rak'at. Car il arrivera le jour où tu ne pourras plus et tu rentreras alors dans le hadith qui a dit, ne sois pas comme X, il faisait la prière de la nuit, ensuite il l'a délaissé. Donc si quelqu'un veut faire un programme, qu'il fasse un programme inshallah ta'ala assez léger, et chaque jour inshallah ta'ala, chaque mois, chaque année, il ajoute. Par exemple, disons qu'il fasse par exemple une fois par semaine. C'est pas la peine de choisir un jour exactement, une fois par semaine, par exemple cette semaine le lundi, la deuxième semaine par exemple le mercredi, et comme ça une fois par semaine, ou alors deux fois par semaine, et comme ça, mashallah. S'il tient à cela, seulement une fois par semaine, s'il tient à cela jusqu'à ce qu'il meure, c'est quelqu'un que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu de lui du bien. Non, c'est quelqu'un que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu de lui du bien. Mais à condition, comme j'ai dit, qu'il n'arrête pas, qu'il fasse, inshallah, un programme à vie. Un programme à vie. Et vous savez tous que la meilleure salat de la nuit, c'est celle qui est un peu proche du dernier tiers de la nuit où Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal descend. Vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala descend chaque nuit au ciel de la dunya. Donc masha'Allah, quand Allah subhanahu wa ta'ala descend, il te trouve en train de faire la salat, il te trouve prosterné, alors que l'autre est en train de dormir et ronfler, et l'autre est en train de danser, et l'autre est en train de boire l'alcool, et l'autre est en train de faire la zina ou l'ayadu billah. Alors toi, il te trouve prosterné, masha'Allah. Donc sûrement que les doigts que tu feras, sûrement qu'ils seront exaucés bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et ensuite il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce hadith il est un peu difficile à expliquer en français, peut-être que inshallah ta'ala vous m'aiderez. C'est un hadith qui se trouve dans Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani, dans le numéro 4079. Numéro 4079, donc c'est un hadith authentique. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit, alaykum bi qiyam al-layl. Donc je vous conseille, à peu près, je vous conseille la prière de la nuit. Alaykum bi qiyam al-layl. Je vous conseille, elle est très conseillée. Quoi? La prière de la nuit. Ensuite, il a dit, c'est à peu près, il a dit, c'est le chemin des hommes pieux qui étaient avant vous. Ou bien c'est le signe. C'est-à-dire que faites comme faisaient eux. Soyez comme eux sur le même chemin. Les hommes pieux, les sahaba, les autres, etc., comment qu'ils étaient, la prière de la nuit, c'est le chemin, ou là c'est le sentier, ou là c'est le dalil, ou là c'est la voie des hommes pieux qui étaient avant vous. Wa qurbatun ila Allah ta'ala. Et il a dit, et la prière de la nuit, c'est aussi quoi? C'est aussi quelque chose qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a cité jusqu'à maintenant deux bienfaits. Le premier bienfait, tu ressembles aux pieux, tu es dans la même voie qu'eux. Le deuxième bienfait, c'est quelque chose qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'oubliez pas le hadith authentique, ou le hadith Qudsi authentique, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, je cite seulement le témoin, il a dit, wa mazala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Et mon serviteur est toujours en train de s'approcher de moi avec les surérogatoires, les nawafil, jusqu'à ce que je l'aime. Alors imaginez la prière de la nuit qui est la meilleure des surérogatoires. Naam. Après la prière obligatoire, Sobh, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, la prière de la nuit, c'est la meilleure des prières surérogatoires. C'est la meilleure des prières surérogatoires. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité un troisième bienfait. Il a dit wa minhat anil ithm. Il a dit la prière de la nuit aide à s'éloigner des péchés. Subhanallah al-Azim. Quand quelqu'un fait la prière de la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala lui raffermit son cœur. Il n'a pas un cœur comme ça, tout est bondé. Alors, s'il boit le haram, il fend. Il boit le haram, il veut faire le haram, il commence à trembler. Non. Quand tu fais la prière de la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala raffermit ton cœur. Les péchés, tu n'en as plus envie. Ça ne te tente pas beaucoup. Car les péchés, ça dépend du cœur. Plus le cœur est vide et ébranlé, plus il veut faire les péchés. Plus il est, mashallah, raffermé, plein de lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plein de piété, plus on n'est pas tenté par les passions et les péchés. Donc c'est le troisième bienfait de quoi? De la prière de la nuit. Le quatrième bienfait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa takfirun lis-sayyi'at. Wa takfirun lis-sayyi'at. La prière de la nuit, mashallah, fait annuler les péchés. La prière de la nuit fait annuler le péché. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité le cinquième bienfait de la prière de la nuit. Il a dit wa mataradatun lid-da'i 'anil jasad. Wa mataradatun lid-da'i 'anil jasad. Et par-dessus tout cela, la prière de la nuit a un autre bienfait, c'est quoi? Elle éloigne les maux du corps. C'est un médicament. Qui aurait dit cela, subhanallah? S'il n'y avait pas ce hadith, personne n'aurait cru cela. Naam, masha'Allah. La prière de la nuit est quoi? Est un médicament pour le corps. Ça éloigne les maladies. La maladie. Le prophète alayhi sallam n'a pas cité exactement quelle maladie. Elle est noire exactement. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Peut-être le rhumatisme, peut-être, je ne sais pas. Mais ça a quoi? Ça a cette grande yani, faveur que yani, elle éloigne les mots. Hein, certains mots, elle les éloigne qui? La prière de la nuit. Donc je répète, la prière de la nuit, bi'idhni azza wa jal, a cinq bienfaits. Je les répète. Le premier bienfait, si tu ressembles aux hommes pieux. Le deuxième, c'est quelque chose qui rapproche vers Allah Azza wa Jal. La troisième, elle éloigne du ithm, du péché. Le quatrième bienfait, elle annule les sayyi'at. Elle annule les péchés. Cinquième bienfait, la prière de la nuit éloigne des maux, les maux du corps. Les maux du corps. Subhanallah al-Azim. Sûrement que viendra le jour où les médecins découvriront que la prière de la nuit a un grand rapport avec certaines maladies et elles éloignent certaines maladies. Sûrement viendra le jour où ils découvriront cela, comme ils ont découvert très en retard que la hijama avait beaucoup beaucoup de bienfaits. Ils ne l'ont découvert que très très dernièrement. Ensuite, yani pour parler des bienfaits de la prière de la nuit, je vais citer un autre hadith qui est dans Sahih al-Bukhari. Abdullah ibn Omar, que tout le monde connaît, qui est l'un des sahaba radiallahu ta'ala anhum, les plus pieux et les plus yani ceux qui suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Abdullah ibn Omar كان من أشد الناس اتباعا للسنة ومن أشد الناس تحرجا عن مخالفتها. Donc Abdullah ibn Omar, c'était l'un des plus yani grand l'un des sahaba qui suivait plus la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam, radiyallahu ta'ala anhu. que s'est-il passé à Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala anhu? Écoutez ce hadith qui est dans le Bukhari, masha'Allah. Il a dit: Ra'aytu, j'ai vu dans le songe, ka'anna ithnain atayani, j'ai vu dans le songe comme si deux sont venus, yani, ils m'ont pris par la main. Dans un autre hadith, c'est dit. Deux anges sont venus, ils m'ont pris par la main et ils ont voulu aradani dhababi ilan nar, yani talaqahuma malakun. Alors un autre ange les a rencontrés et il a dit qu'a dit le troisième ange? Il a dit lam tura, n'aie pas peur. Il parlait à Abdullah ibn Omar, il lui a dit n'aie pas peur. Ensuite, il a parlé aux anges, il a dit « Khaliyan, laissez-le. » Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhu, a dit « Fa qassat hafsatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ihda ru'yay. » Donc, j'ai raconté à ma soeur Hafsa, qui est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'une de ses épouses, radiyallahu ta'ala anha. Et donc, Hafsa, radiyallahu ta'ala anha, a cité ce songe au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit ni'mal rajulu abdullah law kana yusalli min al-layl. Ah, il a dit Abdullah ibn Omar, c'est un homme masha'Allah, c'est un homme magnifique masha'Allah, mais si seulement il faisait la prière de la nuit. Abdullah ibn Omar, c'est un homme masha'Allah, si seulement il faisait la prière de la nuit. Naam. Alors Abdullah ibn Omar a dit, radiyallahu ta'ala anhu, celui qui a raconté le hadith a dit, فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنْ لَيْلِ إِلَّا قَدِيلًا. Lorsque Abdullah ibn Omar a entendu ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne dormait plus que très peu. Ça veut dire à partir de ce jour, il n'a plus laissé la prière de la nuit. Regardez, on peut prendre quelques avantages de là. Et avant d'oublier, je remercie la sœur qui a fait le résumé de la fois passée, le résumé du Dars al-Aqida. Jazakallahu khayran, jazakallahu anna khayran. Je disais, on peut prendre quelques avantages de ce hadith. C'est quoi? On peut prendre comme avantage que quelqu'un qui fait la prière de la nuit, on peut dire de lui ni'am al-rajul. Naam, on peut dire de lui cet homme est magnifique. Les gens yani classent les gens d'après le système de valeurs qu'ils ont. Par exemple, les gens qui ne sont pas dans le dîn, qui ne pratiquent pas ça, quand est-ce qu'ils disent que cette personne est masha'Allah par exemple? Ça dépend. Certains disent cette personne est masha'Allah parce qu'elle a beaucoup d'argent. Cette personne est masha'Allah parce qu'elle sait bien danser. Cette personne est masha'Allah, je ne sais pas pourquoi. Mais nous, le prophète alayhi sallam nous donne un système de valeurs. Il nous dit pour dire que quelqu'un est masha'Allah, il faut par exemple qu'il fasse la prière de la nuit. Ou bien disons que celui qui fait la prière de la nuit, on peut dire de lui il est masha'Allah. Regardez la différence entre nous et eux. Alhamdoulilah, on a yani, tout dans notre sharia. Et on peut dire aussi que quelqu'un qui ne fait pas la prière de la nuit, que yani, il ne peut pas être flatté en disant de lui qu'il est magnifique. Non, peut-être qu'il est magnifique en autre chose. Et tant qu'il ne fait pas la prière de la nuit, on ne peut pas dire de lui ni'am al-rajul en ce sens. Naam. On peut prendre de ce hadith quelque chose aussi, un autre avantage. Un autre avantage, on peut le prendre de ce hadith. Un avantage yani, assez solide. C'est quoi? On peut prendre de ce hadith que Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhu, qui est celui que vous savez dans la sunna, Abdullah ibn Omar, qui suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna, même dans les petits détails, tellement il aimait le prophète alayhi wa sallam, mais il aimait sa sunna. Il le suivait, même quand il voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam uriner dans un endroit, s'ils sont en voyage, il le voit uriner devant par exemple cet arbre, il va spécialement devant cet arbre et il urine là-bas. Subhanallah al-Azim. Tellement il aime imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez que plus on aime une personne, plus on l'imite. Naam. Plus on aime une personne, plus on voudrait l'imiter. C'est pour ça que tous ceux qui aiment les chanteurs et les grandes, ce qu'ils appellent eux, les grandes vedettes, ils font comme eux. Ils s'habillent comme eux, ils se coiffent comme eux. Même, yani, ils font des choses, yani, horribles, mais ça ne fait rien. Pourquoi ? Parce que il est fanatique, il aime cette personne. Non. Plus on aime une lime, c'est ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, min babin awla wa ahra. C'est pour ça que quand on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faudrait qu'on fasse comme lui. Et vahiran wa batinan. Vahiran, la barbe et tout ce qu'on peut. Non. Et aussi, batinan, aussi, dans son comportement, dans sa façon de parler, dans sa façon de ses relations avec les gens, etc. Ce n'est pas comme certaines personnes, yani, qui se limitent seulement à la barbe. La barbe est très importante. Et celui qui ne la fait pas pousser, il a des péchés. Il a des péchés. Sauf s'il est malade ou là il est à l'armée ou là je ne sais pas. Je ne parle pas des excuses. Non. Mais ce n'est pas la barbe elle-même qui suffit. Il faut avoir aussi le bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai peur que si tu te suffis seulement à la barbe et que tu ne limites pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son comportement, etc., j'ai peur que tu fasses fuir les gens. J'ai peur que tu fasses fuir les gens de l'islam. Et ça sera encore très grave. Parce que les gens diront, regarde celui-là se barbu avec le qamis, etc. Et regardez ce qu'il fait. Et regardez ce qu'il fait. N'allons pas très loin. N'allons pas très loin. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée quand j'étais ce mois, quand j'étais en Algérie où j'étais malade. Al-Muhim. Est-ce qu'il y a le son d'abord ? Il n'y a aucune réponse pour le son. Porte salafia, le son. Alhamdulillah. Ta'am Allah, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Peut-être il est allé faire la prière de la nuit. Je ne le vois pas. Il est dans la salle. Il n'écrit ni un ni rien. Nous, on dit, Inch'Allah, qu'il est en train de faire la prière de la nuit. Ma'alish. Cette fois, quand j'étais en Algérie, Inch'Allah, il y a seulement un mois, la maladie, quand je suis tombé malade chez ma mère. Donc je suis resté chez elle, malade, là-bas. Même Salat Jumu'ah, je la faisais à la maison, tellement j'étais malade. Elle me racontait qu'elle avait fait la connaissance d'une femme médecin. Elle m'a dit, la femme médecin a dit à ma mère, elle lui a dit, il y a quelqu'un avec la barbe et le qamis, mashallah, qui est venu me voir avant la Umrah. Elle l'a ausculté, car avant de partir à la Umrah, il faut quelque chose d'un médecin, qu'on n'a pas de maladie, etc. Al-Muhim, quand il a été ausculté, elle lui a donné, yani, qu'il n'avait rien, mashallah, il est parti à la Umrah. Elle lui a dit, quand il est revenu, il est resté à la maison 15 jours ou 20 jours. À la maison, mashallah, les gens viennent le voir, le café, le thé, les gâteaux, mashallah. Ensuite, il est allé chez le médecin, la femme a dit. Alors qu'en principe, un homme ne va pas chez une femme médecin, sauf s'il n'y a pas d'homme. Ou sauf si dans cet endroit, là, il n'y a que les femmes, il n'y a pas d'autre endroit. Al-Muhim, qu'est-ce qu'il dit à la femme, à le médecin? Assalamu alaikum, salam Allah, alhamdulillah, mbrouk alik al-umra, etc. Il lui dit, voilà, moi ça fait 15 ou 20 jours que je suis venu de l'umra. Alors je suis venu vous voir, inshallah ta'ala, pour que vous m'écriviez un certificat de maladie, comme quoi j'étais malade. Masha'Allah, ça veut dire, elle va lui écrire comme quoi il était malade, et comme ça il va être payé, je ne sais pas, les 15 ou les 20 jours, alors qu'il était à la maison, en train de boire le thé et manger les gâteaux. Donc le témoin du dar, c'est quoi? Cette femme a dit à ma mère, elle lui a dit, donc tu vois pourquoi les gens critiquent les barbus et ceux du qamis. Regarde, un barbu comme celui-là, avec le qamis, et il vient lui 15 jours à la maison, absent, il dit, écris-moi comme quoi, yani, je viens juste de venir du hajj, ou je ne sais pas quoi, là j'étais malade, ou je... La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-ali. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font fuir les gens de l'islam. Oulayadu billah. Al-Muhim, qu'est-ce que j'étais en train de dire avant que je n'oublie? Naam. On prend de ce hadith on prend de ce hadith aussi, qu'est-ce qu'on prend? On prend que Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala anhu, qui aimait beaucoup le prophète alayhi sallam, le suivit beaucoup, qui était mashallah pieux, etc., a vu dans le songe qu'il allait être jeté en enfer. Alors, comment expliquer certains gens qui ne font même pas la prière et qui se voient, masha'Allah, dans le paradis et qui se voient, prétendent-ils, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les songes. Allahu Akbar. Abdullah ibn Omar se voit qu'il allait être jeté en enfer. Et certaines personnes qui sont des pervers parce qu'ils ne font pas la salat et qui boivent de l'alcool, ils disent on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le songe. Naam. Et tout ça, c'est le shaitan qui joue avec eux, comme vous devez le savoir, inshallah ta'ala. Maintenant, inshallah ta'ala, on va commencer le dars bi'idnillahi ta'ala. Bon, on l'a commencé depuis longtemps, mais maintenant, inshallah, on rentre dans le livre. On rentre dans le livre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a récité, la prière de la nuit, l'a récité parfois à voix haute et parfois à voix basse. De la nuit, tu veux la faire à voix haute, tu veux la faire à voix basse. Quand tu veux, d'après, quelle est la façon avec laquelle tu ressens le khushu dans ton cœur. Tu peux lever un peu la voix, tu peux descendre la voix. Il raccourçait parfois la récitation et l'allongeait parfois. Quant à ce qu'il disait dans la prière de la nuit, des fois c'était quelque chose de court, des fois c'était quelque chose de long. Et parfois, il l'a rallongé tellement il rallongeait parfois la prière de la nuit, qu'une fois, qu'est-ce qui s'est passé une fois? Qu'une fois, Abdullah ibn Mas'ud a dit, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, le compagnon Jalil, a dit, une nuit, je priais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une nuit, je priais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il resta debout tellement longtemps que je fus frappé d'une mauvaise pensée. Il a dit, une fois, j'ai fait la prière de la nuit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est resté tellement longtemps dans cette salate en train de lire que je fus frappé d'une mauvaise pensée. On lui demanda, c'est quoi cette mauvaise pensée? C'est quoi cette pensée? Il a dit, j'ai pensé m'asseoir et laisser le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Rawal Bukhari au Muslim. Il a dit, wallah, c'était tellement long que khlas, je ne pouvais plus, j'allais faire quelque chose, disons, de grave. On lui a dit, c'est quoi cette chose de grave? C'est quoi cette mauvaise pensée? Il a dit, wallah, j'allais m'asseoir et laisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam continuer seul. C'est dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois, rallongeait la salat, mashallah, il la faisait longue. Naam. Et Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu ta'ala anhu, a dit une fois, il a dit, je priais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam cette nuit lorsqu'il commença la sourate al-Baqara. Il a dit, une fois, je faisais la prière de la nuit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète alayhi wa sallam a lu al-Fatiha, sauf al-Fatiha, ensuite il a commencé al-Baqara. Alif lam mim, zalika al-kitabu la rayba fih. Il a dit, c'est-à-dire Hudhayfa a dit, il a dit, je me suis dit alors, il va se prosterner après 100 versets. Non. Il s'est dit, je suis sûr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lire 100 versets de Baqara et va se prosterner. Il a dit, ensuite il continua. Et je me dis alors, il la priera en 2 rak'at. Je me suis dit alors, il va diviser la sourate al-Baqara en 2. Il va lire la moitié dans la première raka'a et l'autre moitié dans la deuxième raka'a. Il a dit, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue après cela. Alors je me dis, il va s'incliner, il va faire le recours quand il l'aura. C'est-à-dire, alors quand il va terminer le baqara, il va faire, inshallah ta'ala, le recours. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam termina sourate al-baqara et commença par sourate al-nisa. Et commença surat النساء. نعم. Qu'il récita entier. Allahu Akbar, Sourate An-Nisa, combien de pages? Il la récita en entier. On est toujours dans la première raka. Ensuite, il la termina et il commença Sourate Ali Imran. Et il la récita en entier. Regardez Sourate Ali Imran, combien qu'elle contient de feuilles. Il a dit, et dans tout cela, il récitait lentement. N'allez pas vite, lentement, lentement. Et lorsqu'il rencontrait un verset glorifiant Allah, lorsqu'il disait un verset où il y a le mot Sabbahadillah ou Sabbih Isma Rabbik ou quelque chose, où il y a le mot Sabbih, il s'arrêtait et il glorifiait Allah subhanahu wa ta'ala. Il disait Subhanallah, Subhanallah. Et lorsqu'il rencontrait un verset de demande, il demandait. Non, mais lorsqu'il rencontrait un verset où il faut demander, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala le paradis, lui demander la piété, lui demander l'iman, et comme ça. Et lorsqu'il rencontrait un verset de protection, il cherchait protection auprès d'Allah. Il disait A'udhu billah min Allah, A'udhu billah min Allah, A'udhu billah min Jahannam. Alors il s'inclina. Alors il s'inclina, et dans un autre hadith, quand il s'inclina, il resta presque aussi longtemps. Ensuite, il releva la tête, dans un autre hadith, il resta presque aussi longtemps. Et comme ça, dans le sujoud, et comme ça, entre les deux prosternations, etc. Regardez, est-ce que quelqu'un de nous peut par exemple faire une salat ainsi? Une seule raka, tu lis toute le Baqara, ensuite tu lis An-Nisa, ensuite tu lis Ali Imran. Donc une seule raka. Et à chaque passage où il y a Subhanallah, tu dis Subhanallah. À chaque passage où il y a le feu, tu dis A'udhu Billah min Jahannam. À chaque passage où il y a le pardon et le paradis, ça, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala le paradis. Naam. Essayez-le, même si vous voulez, essayez-le avec un livre. Ce n'est pas interdit de faire la prière nafila avec un livre, pour celui qui n'apprend pas bien le Coran. Prends un livre, le livre, je veux dire le Coran. Prends le Coran, ouvre-le, mets-le ouvert dans tes mains et commence à lire. Dans une seule raka'a, al-Baqara, ensuite va à Sourate An-Nisa et va à Ali Imran et fais le tasbih et demande à Allah et demande le refuge, etc. On voit, inshallah ta'ala, si tu peux. Non. C'est dire que yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la certitude dans le cœur. Quand on a la certitude, yani on a l'iman, on a l'halawa, on sent que la prière est très légère. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Il a dit la prière est très lourde et très grande, il veut dire très lourde, sauf illa 'ala al-khashi'in, sauf pour celui qui a le khushu' dans le cœur. Celui qui a le khushu' dans le cœur, il sent pas qu'elle est lourde. C'est pour ça que Allah Ta'ala, quand il parle des munafiqin, il dit wa idha qamu ila salat qamu kusala. Les hypocrites, quand ils se lèvent à la prière, ils se lèvent avec fainéantisme. Ah, ils disent dans le cœur, si c'était pas Allah obligé que les gens sont en train de nous voir ça, je ferais pas cette prière. Non, ils la sont lourdes, lourdes, lourdes. Donc, plus quelqu'un de nous, lorsqu'il va à la prière, il la sent lourde, 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 plus il doit revérifier sa foi. Il doit, sa foi est devenue très faible. Il doit, inshallah ta'ala, la vivifier de nouveau. Non, parce que sa foi est devenue très faible. Et plus, quand tu vas rentrer dans la salat, tu rentres comme ça facilement et tu fais le wudu inchallah facilement et tu ne veux pas sortir de la salat et que ça te plaît et que tu pleures à l'intérieur et que ça veut dire que ton iman est mashallah. On prend aussi un avantage de cette salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on prend? C'est que il est permis de ne pas suivre le tartib, comment qu'on dit le tartib, le classement. Naam. Il est permis de ne pas suivre le classement quand on lit le Coran. Vous savez, vous avez remarqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé avec le Baqara, ensuite au lieu de lire Ali Imran, il a sauté, il a lu directement Nisa qui se trouve en troisième position. Quand il a terminé Nisa, il est revenu vers Ali Imran. Donc ce sont des choses qui se font. Pourquoi? Parce que je vous ai dit une fois que le classement des sourates n'a pas été fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'on soit obligé de le faire, mais il a été fait par les sahaba, par ijtihad. C'est pour ça que tu peux commencer par une sourate, ensuite aller en bas pour la oudou bi rabbin nas dans la première raka, et dans la deuxième raka tu lis avec le baqara ou tu lis avec Ali Imran ou là. Naam, c'est faisable, ce n'est pas interdit. Naam. Et il y a aussi des athars des salaf radiallahu ta'ala anhum qu'ils ont fait des salats comme ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas suivi le classement. Naam, ils n'ont pas suivi le classement, et Abu Bakr radiallahu ta'ala l'a fait, et beaucoup d'autres salaf, j'ai noté ça, ça existe ça quelque part dans un de mes cahiers. Si vous voulez, inshallah ta'ala, le délit, je vous le donnerai. Donc le délit, je viens aussi de le donner ici du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et une fois, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était malade, il récita les 7 plus longues sourates at-tawal. Naam. C'est un hadith sahih ou Abu Ya'la al-Hakim sahih wa wafaqahu al-Zahabi. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en étant malade, qu'est-ce qu'il a lu? Les 7 longues, les 7 plus longues sourates du Coran. Ça, tout en étant malade. Naam. C'est dire que la salat pour lui, il n'y a pas quelque chose qui peut l'égaler. C'est pour ça qu'il disait ju'ilat qurratu 'ayni fi salat. Nous tous, on a quelque chose qui est ce qu'on appelle en arabe qurratu l'ayn, c'est la chose qui te fait, yani, pour tes yeux, il n'y a pas de meilleur. Quelqu'un, il a son fils qui est qurratu l'ayn, l'autre il a son travail, l'autre il a sa femme, l'autre il a sa voiture, il dit ça, c'est qurratu ayni, c'est tout ce qu'il y a mieux dans mes yeux. Le prophète alayhi salam, qu'est-ce qui c'était quoi qurratu ayni? Salat. Quand il rentrait dans la salat, il se sentait dans l'autre monde. Khlas, il est au paradis, il est khlas, il n'est plus avec nous. Naam. Nous, quand on rentre dans la salat, on est avec le film et le match et le manger et qu'est-ce qu'on va faire ce soir, etc. Barakallahu fikoum pour le numéro 1. Il récitait parfois aussi une de ses sourates, yani les plus longues, dans chaque raka. Ensuite, il a dit, il n'est pas du tout connu qu'il récitait le Coran dans son entièreté en une nuit. Naam. Il n'a jamais existé un hadith et une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme quoi il a lu dans la salat ou bien hors salat tout le Coran en une nuit. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a fait. En fait, bon, ce hadith il est dans Muslim et Abu Daoud. Il ne l'a pas agréé à Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr a demandé qu'il fasse cela, de lire le Coran en une nuit, il ne lui a pas accepté. Il lui a dit Iqra al-Qur'an fi kulli shahr. Récite le Coran en entier chaque mois, une fois chaque mois. Qala, le compagnon a dit Qultu inni ajidu quwwa. Il a dit J'ai la force de faire plus que cela. J'ai la force de le lire, yani, plus, yani, qu'une fois en un mois. Qu'a dit le prophète, il a dit فَقْرَأْهُ فِي عِشْرِينَ لَيْلَ. Alors récite-le en 20 nuits. En 20 nuits, pas en un mois. D'accord, tu as la force, récite-le en 20 nuits. Il a dit j'ai la force. Et du quwwa. Il a dit فَقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ. Il lui a dit alors récite-le en 7 jours. Ça dure une semaine. Et ne va pas en dessous de cela. Alors le Bukhari au Muslim. Il lui a dit alors récite-le en 7 jours. Mais je ne te permets pas que tu le lises en moins de 7 jours. Et il l'autorisa alors à le réciter en 5 jours, dans un autre hadith. En 5 jours. Naam. Rawa Nasa'i ou Tirmidhi et l'Albani a dit hadith en sahih. Ensuite, il l'autorisa à le réciter en 3 jours. Rawa Al-Bukhari Ahmed. En 3 jours. Et il lui t'interdit, à ce compagnon, il lui t'interdit de le réciter en moins de temps que cela. En moins de 3 jours. Naam. Rawat Damiri ou Saïd ibn Mansour et Albani a dit hadith sahih. Le prophète alayhi sallam a dit Man qara al-Qur'ana fi aqall min thalathin lam yafqahu. Quiconque récite le Coran en moins de 3 jours, il ne comprend pas. Non, c'est pas possible. Comment tu peux lire tout le Coran en 3 jours? Donc, tu vas lire yani, sans rien comprendre. C'est quoi cette récitation? Ça, c'est pas une récitation. Non, madame, sous-adab ma'al Qur'an. Il a dit dans une autre version, la yafqahu man qara al Qur'an fi aqal min thalath. Non, celui qui lit le Coran en moins de 3 jours ne peut le comprendre. Il ne peut le comprendre. Non. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit, فَإِنَّ لِكُلِّ عَابِدٍ شِرَّةٍ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٍ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٍ فَإِمَّا إِلَى سُنَّةٍ وَإِمَّا إِلَى بِدْعَةٍ فَمَنْ كَانَتْ إِلَى سُنَّةٍ فَقَدْ اِهْتَدَى وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّةٍ فَقَدْ اِهْتَدَى وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ. نعم. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, chaque adorateur, quelqu'un qui fait les adorations, chaque adorateur a une période d'enthousiasme. Masha'Allah, shira, ils se sont yani, masha'Allah, fort. Ils se sont, masha'Allah, il veut faire le jeûne, il veut donner de l'argent, il veut faire de la prière, il veut, masha'Allah, masha'Allah. Et chaque période d'enthousiasme a sa pause. Ah, yani sa pause où on se sent un peu faible, on n'a pas besoin, on sent pas la saveur halawa pour faire beaucoup de nafilat, etc. Non. Mais le prophète alayhi sallam a dit, quiconque sa pause sera vers la sunna, celui-là alhamdoulilah est guidé, et quiconque sa pause sera vers autre chose, celui-là a péri. Donc qu'est-ce qu'on prend comme avantage sur hadith? On prend cet avantage comme avantage sur hadith que nous tous sans exception, on a des périodes où, mashallah, on sent l'iman qui grandit, on veut faire le bien, on veut faire des nafilat, etc. Et on a des pauses où yani, on sent que l'iman est un peu faible et yani, on n'a plus cette halawa de faire des surérogatoires, etc. On n'a pas yani, la souciance avec. Mais le prophète alayhi sallam a dit, attention, il a dit dans ce hadith, dans la période de la pause, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es toujours avec la sunnah, même si tu la fais de temps en temps, là tu vas délaisser la sunnah et rentrer dans la bid'a. C'est pour ça, dans un autre hadith qui est dans le Sahih al-Jami' de Cheikh al-Albani, il a expliqué ce hadith en disant d'autres termes qui sont très graves. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, chaque adorateur a une période d'enthousiasme, shira, et une période de pause, al-fatra. Ensuite il a dit, fa'in saddada wa qaraba fa'udduh. Il a dit, fa'uddu, wa illa, il a dit, wa ida ushira ilayhi bil banan, fala ta'uddu. C'est un hadith sahih, c'est à peu près son sens. C'est à peu près son sens. Il a dit, quand il est dans sa période de pause, s'il essaye, yani, il fait de son mieux, il essaye, yani, de son mieux, et même s'il n'arrive pas au but, il qarib, même il n'arrive pas, il rapproche du but, arjou, à celui-là, je l'espère, Inch'Allah, c'est quelqu'un de bien, etc. Quelqu'un qui, Inch'Allah ta'ala, qui est dans la guidée. Mais il a dit, وَإِنْ أُشِيرَ إِلِهِ بِالْبَنَانِ فَلَا تَعُدُ. Mais si c'est quelqu'un qu'on montre des doigts, alors celui-là, yani, c'est quelqu'un de péri, c'est quelqu'un qui n'est plus dans la guidée. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous savez que, quand on a la période d'enthousiasme, quand on a le halawa, etc., Masha'Allah, il faudrait toujours rester dans les normes de la sunna. Ce n'est pas comme font par exemple les takfiriyoun. Dès qu'il a, ils sont, masha'Allah, ils sont la foi dans son cœur, etc. Yani, ils transgressent les hadiths. Et ils commencent à aller à l'encontre de la sharia en croyant qu'ils défendent la sharia. Naam. Lui dit, voilà ce qu'a dit le prophète. Il te dira, on n'est pas en ce temps, on est ceci, on est cela. Il généralise comme ça. Naam. Comme a dit quelqu'un. J'ai entendu le Cheikh Abdel Malik Hafidahullah, Abdel Malik Ramadani Hafidahullah. Quelqu'un lui a raconté. Non, il lui a dit, yani on disait aux gens, voilà, le prophète Islam a dit, yani quand le gouverneur est toujours musulman, il n'a pas encore déclaré le kufr, yani on ne doit pas le combattre, on ne doit pas lui faire la guerre. Et ce n'est pas parce que le prophète alayhi salam est un peu ou n'a pas de courage qu'il ne veut pas qu'on fasse la guerre. Mais il sait que quand on fait la guerre, on est perdant. Il sait. Comme lui, il n'a pas fait la guerre quand il était à la Mecque. S'il l'avait fait, il aurait été perdant. Naam, tout le monde est contre lui. Il attend qu'il soit fort, etc. C'est pour ça que quand il est rentré à Amul Fetch, mashallah, il les a fait tomber comme on fait tomber les mouches. Naam. Donc l'islam voit au loin. Quand tu fais la guerre au gouverneur, le gouverneur, il n'est pas fou pour te donner la chaise, le trône, il n'est pas fou. Il peut tuer son père, sa mère et tous ses enfants, il ne lâche pas le trône. Alors toi, tu viens avec un revolver et un artifice, là, comment ça s'appelle, mhirqa, et tu veux un couteau ou deux couteaux, tu veux lui faire la guerre. Et regardez seulement ce qui s'est passé jusqu'à nos jours dans tous les pays du monde où ils ont voulu faire la guerre au gouverneur musulman. Al-Muhim, Abdelmalek a dit, l'autre lui a dit, quand on a dit à cette personne, le prophète Islam a dit, voilà, il faut la patience, il faut ceci, il faut cela, il a dit, moi je ne suis pas prêt à suivre un prophète qui m'humilie. Allahu Akbar, kalimatu kufr. Voilà, un takfiri qui lui-même rentre, dit des choses de kufr et il ne sait pas. Vous connaissez une parole de kufr plus grande que celle-ci? Quelqu'un qui dit, moi je ne suis pas prêt à suivre le prophète Adam Muhammad qui m'humilie. Il m'a rendu humilié. Il me dit, il n'y a pas la guerre, il n'y a pas le djihad, il n'y a rien. Ouais, je suis humilié comme ça devant les kuffars. La hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la. Allah yahdina. Al-Muhim, quand on a la halawa, quand on a la halawa de l'iman, la halawa, masha'Allah, de l'iman, il faut, yani, ne pas la faire sortir des normes. Il faut demander de l'ilm, il faut apprendre encore, il faut apprendre aux gens. Il faut, ce n'est pas, yani, suivre les passions et oublier les hadiths et commencer à faire n'importe quoi. Je vous raconte quelque chose qui s'est passé et que j'ai vécu. Je vous raconte des fois, je vous raconte de temps en temps des choses comme ça pour yani, ça vous raffermer encore plus. Naam. Il y avait quelqu'un une fois dans une mosquée, j'étais imam dans une mosquée, c'était en Algérie bien sûr. Il y avait un frère qui était mashallah, mais il a commencé avec un grand enthousiasme et il n'a pas voulu y aller doucement. C'est pour ça que le prophète alayhi salam a dit, inna hadha ad-din matin fa awghilu fihi bi rifq. Il a dit, attention, ce din, il faut aller doucement, parce que toi, peut-être tu vas vivre 20, 30, 40, 40, 50 ans, il te faut yani le viatique. C'est pas hein, c'est comme on te donne une voiture, on te dit, on t'a mis le plein pour que tu fasses le voyage d'ici à je ne sais pas où, 200 km le plein. C'est pas toi, tu vas rester dans la ville, tourner. Ensuite, quand tu veux aller faire le voyage, tu n'as plus d'essence. Ton essence, là, tu l'as fait partir. Al-Muhim, cette personne a commencé déjà, quand il marchait dans la rue, il passait devant des magasins, s'il entendait la musique ou là, il avait une hache avec lui, subhanallah. Il sort la hache, il frappe, il casse la vitre des magasins, etc. Haram, l'islam m'a dit haram, la musique, subhanallah l'adim. Dès qu'on m'a dit cela, j'ai dit c'est très grave. Selon le guide, commencer comme ça, yani, au lieu de suivre le ilm, il suit les passions, celui-là, au lieu de demander au ulama, est-ce qu'il a demandé au ulama, moi qui ne suis pas un alim, mais seulement un imam, est-ce qu'il m'a demandé mon avis avant de casser les vitres? Non, il n'a pas fait. Donc allez, il suit ses passions. Al-Muhim, j'ai dit celui-là, sauf si Allah le guide, il va terminer très mal. Et ensuite, il avait tellement de inshallah halawat iman que même quand je faisais des fois des questions-réponses, je lui donnais à lui pour lire les questions. Tellement je sentais qu'il voulait ces choses-là, etc. Je lui donne les questions, je lui dis, lis. Il lit comme ça, il ouvre la feuille. Quand on envoie, par exemple, les sœurs, elles envoient des écrits sur des feuilles comme sur l'étage. Et lui il lit la feuille, moi je réponds. Et des fois même notre frère Abdelmalek venait dans cette mosquée et je crois, si je n'ai pas oublié, que lui-même il lui lisait question. Al-Muhim, ensuite un jour on m'a dit que X Hada il commençait plus à venir à la mosquée. Allahu Akbar. Je suis devenu de temps en temps. Ensuite, on m'a dit, on l'a vu avec la cigarette, il a commencé à fumer. Ah, il a commencé à fumer. Ensuite, on m'a dit, on l'a vu avec le short. Maintenant, il marche avec le short dans la rue. Ensuite, il n'avait plus la barbe. Ensuite, on m'a dit, il a commencé à fumer la drogue. Et ensuite, un jour, qu'est-ce qu'il a fait? Miskin, elle a été un miskin. Qu'est-ce qu'il a fait, miskin? Je crois qu'il était drogué ou là, je ne sais pas. Il est sorti comme ça dans un quartier et il a crié, comme ça à voix haute, il a crié: moi, je n'ai pas peur de ce qu'on appelle Adul Irhabien, je n'ai pas peur de ceux qui sont dans les montagnes, etc., ceux qui prétendent faire le djihad, etc., je n'ai pas peur d'eux, etc. Non. Deux jours après, ils sont venus le prendre. Et une semaine après, je sortais de Salat al-Isha de la mosquée, j'étais en train de marcher dans la rue, quand quelqu'un me dit, on était en groupe, quelqu'un me dit, cher, ne regarde pas à droite. J'ai pas voulu regarder, j'ai continué à marcher. Ensuite, cette personne qui m'a dit ne regarde pas à droite, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, il y a la tête de X dont je viens de parler, on l'avait coupé, on l'avait posé comme ça, sur une barre en fer. Il dit, Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Regardez, le miskin, c'est toujours un miskin. Regardez comment il a commencé avec la barbe, masha'Allah, masha'Allah, l'iman, l'islam. Et ça a terminé par la drogue et une tête coupée. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Naam, la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Quiconque en islam ne demande pas le ilm, il sera égaré, qu'il le veuille ou pas. Qu'il le veuille ou pas, il sera égaré. Rentrez dans les salles de takfir. Il y a beaucoup de salles de takfir maintenant dans le paltok. Hein. Rentrez, écoutez ce qu'ils disent du matin au soir. Est-ce qu'ils vous apprennent une sunna, une seule? Le prophète islam a dit ceci. Le prophète islam a fait cela. S'ils vous apprennent une seule sunna, rentrez dans leur salle et restez avec eux. Du matin au soir, il est kafir, il n'est pas kafir. 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 Du matin au soir. Supposons maintenant qu'il soit kafir. J'ai gagné quoi? Ah, X est kafir. Qu'est-ce que j'ai gagné moi? Qu'est-ce que j'ai gagné? Je vais rentrer au paradis. C'est lui le kafir, il va rentrer en enfer. Et après, qu'est-ce que tu m'as appris dans ma religion? C'est tout. X est kafir, khlas. J'ai appris la religion. Donc, revenons inshallah ta'ala à notre dars. Revenons à notre dars. Chaque jour où tu apprends une seule sunna, une seule, pas dix, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une sunna authentique, véridique, remercie Allah subhanahu wa ta'ala et fais le soujoud. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala car tu t'es rapproché d'un pas vers Allah subhanahu wa ta'ala et d'un pas vers l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on avait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais lu tout le Coran en une nuit, ni dans la salat, ni hors salat. Ici, le cheikh dit, attendez, où est-ce qu'il est là? Non. Une seconde. Il a dit, le Cheikh Al-Albani dit, ce hadith ainsi que d'autres implique qu'il est déconseillé makruh de prier toute la nuit. Naam, prier toute la nuit makruh, que ce soit tout le temps ou régulièrement. C'est bon temps pendant une demi-heure, pour que cela n'aurait pas échappé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi il nous aurait pas appris cela? Est-ce qu'il y a quelque chose qui mène au paradis? Le prophète alayhi wa sallam ne veut pas nous l'apprendre. Ma'adallah. Il y a quelque chose qui rapproche vers Allah et que le prophète alayhi wa sallam ne veut pas faire, ni pour lui, ni pour nous. Ma'adallah. Ainsi, Cheikh Al-Albani dit, ainsi ne sois pas trompé par ce qui est rapporté d'Abu Hanifa, et moi j'ajoute, certains disent aussi du Shafi'i, que quoi? Qu'il pria Salat al-Subh avec les ablutions de Salat al-Isha pendant 40 ans. Non, beaucoup de gens, mesakin, disent cette chose, disent, écoute, tu ne sais pas que Abu Hanifa, rahimahullah, a fait 40 ans la prière du matin sobh avec les ablutions de la prière du Isha pendant 40 ans. Et d'autres disent c'est l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i, 40 ans, il a fait la prière du matin avec les ablutions de salat d'Aïcha. Cheikh Al-Albani dit, rahimahullah, cette narration provenant de lui, de Abu Hanifa, est totalement non fondée. Comme l'a indiqué Firouz Abadi. Cette narration est un mensonge clair et ne peut être attribué à l'imam. Il n'y a rien de parfait à cela. Naam, il n'y a rien de parfait à cela. Ensuite, il dit, bien que c'était de l'ordre des préférences de l'imam de faire les meilleures choses, et il n'y a aucun doute sur le fait que renouveler ses ablutions pour chaque prière est la meilleure et la plus complète des choses. Et ceci, s'il était vrai qu'il était resté debout à prier toute la nuit pendant 40 années consécutivement, cela semble être plutôt une histoire à dormir debout, et c'est une invention de quelques fanatiques complètement ignorants qui l'ont attribué à Abu Hanifa ou d'autres, et tout ceci n'est que mensonge. Naam, quand quelqu'un me dit X a fait la prière 40 ans, la prière du matin avec les ablutions de la nuit, moi j'ai un mort, j'ai une tête, j'ai un cerveau, je réfléchis, tu lui dis pardon, pendant 40 années il n'a pas dormi, c'est possible que quelqu'un ne dorme pas 40 années? Car pour faire la prière avec les ablutions de l'Aïcha, il ne faut pas dormir. Si tu dors, tu as annulé tes ablutions. Donc Abu Hanifa n'a pas dormi 40 ans. Il est mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dormait la nuit. Il est mieux que lui. Ensuite, il qui 40 ans n'a pas dormi. Il n'a jamais eu d'invité, il n'a jamais été. Et sa femme, il n'a jamais dormi avec sa femme. 40 ans, sa femme n'a pas connu le plaisir du mariage. 40 ans en train de faire la prière toute la nuit. Donc, tout ça, Inch'Allah Ta'ala, ce n'est pas vrai. Seulement avec la logique, on n'accepte pas. Seulement avec la logique. Alors qu'en est-il que ça contredit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Naam. Une nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrêtez moi inchallah à 23h. À 23h quotidien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, répétant un seul jusqu'à l'aube. Dit tout l'homme fait inna kanti, il soit le tout puissant, le sage. Ma'ida. Naam. Toute la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute la nuit, en train de répéter un seul verset. Le narrateur a dit, avec ce verset, il s'inclinait. Quand il s'inclinait, il disait la même chose. In tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Et il se prosternait avec le même verset. Quand il se prosterne, il dit ce verset. Et il invoquait avec ce verset. Il faisait des doigts avec ce verset. Ainsi, le matin, quand l'aube s'est levée, Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu a dit, ô messager d'Allah, tu t'es pas arrêté de réciter ce verset jusqu'à l'aube. Tu t'inclinais, te prosternais avec. Et même tu es invoqué avec. Alors que Allah Azza wa Jal t'a enseigné le Coran complet. Subhanallah al-Azim. Toi, tu connais tout le Coran, masha'Allah. Comment se fait-il que tu te sois suffi à un seul verset? Alors qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. Il a dit, j'ai demandé à mon Seigneur, le puissant, le sublime, d'intercéder envers ma umma. Il me l'accorda et elle atteindra par la volonté d'Allah tous ceux qui n'associent rien en Allah عز وجل. Naam. طيب. Voilà le verset. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage, sauf le maïdak. Il est permis à quelqu'un, toutefois, le verset. Vous l'avez une, lirez pas le livre, en fait, quand moi je dis quelque chose dans les prochains doros, je vais dire beaucoup de doa. Je vais les dire en français, comme ça, il les affiche inshallah ta'ala, l'école sur l'affiche. Sur l'affiche, pour que ça soit, inshallah ta'ala, yani, facile à apprendre. Car quand on lit, on l'entend seulement. C'est plus qu'on l'entend seulement. Et un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ya Rasulullah, inna jajku, on se fait. La yaqra'u illa qul huwa allahu ahad. Cet homme ne récite rien d'autre que qul huwa allahu ahad. Dit Allah est unique, Allah, etc. Entre parenthèses, comme s'il considérait cela peu. Yani pour lui, il considère que qul huwa allahu c'est peu. Comment s'il était celui-là? Il a fait la prière. Yani, je ne sais pas combien d'heures pendant la nuit, il ne dit que qul huwa allahu ahad. C'est pas suffisant. Alors qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. Par celui qui tient mon âme, il a juré, par celui qui tient mon âme entre ses mains, elle équivaut à un tiers du Coran. Naam, قل هو الله, قل هو الله أحد. Que cet homme ne cessait de répéter et de lire, et que toi, entre parenthèses, tu crois que elle n'a pas une grande, grande valeur, je jure par Allah que elle vaut le tiers du Coran. Naam, il a bien choisi cette personne, elle a bien choisi ce qu'elle a lu. Naam, elle a lu quelque chose qui vaut le tiers du Coran. Ensuite, très vite, je parlerai de la prière du witr. La prière du witr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait Sabbih isma rabbika al-a'la dans la première rak'at. Quand il faisait le witr, dans la première rak'at, Sabbih isma rabbika al-a'la. Et dans la seconde rak'at, dit ô vous qui avez mécru, قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون. Et dans la troisième rak'at, قل هو الله أحد قل هو الله أحد. Parfois il est rajouté dans la dernière rak'at avec قل هو الله, il est rajouté قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. Et une fois il récita 100 versets de sourate An-Nisa dans la troisième rak'at du witr, 100 versets. Non. Et il y a à peu près 7 ou 9 façons de faire la prière du witr. On va les laisser, inshallah, quand on arrivera à la prière du witr. Yani on verra les 7 ou 9 façons comment on fait la prière du witr. Non. Je vous dirai qu'il y a une sunna. Je crois qu'on va terminer avec celle-là, inshallah ta'ala. Attendez. Non. Je voudrais vous dire qu'il y a une sunnah. Une sunnah. C'est quoi cette sunnah? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il terminait sur le huître, des fois, il s'asseyait. Il s'asseyait et faisait 2 rak'at assis. Non. C'est, ça s'appelle la sunnah du huître. Des fois, quand on termine huître, on ne fait pas tout le temps, mais on le fait de temps en temps. Des fois, quand tu termines huître, qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois et tu fais 2 rak'at assis. Ah si, tu lis dans la première, rak'ah, tu lis Ida zulzilatil ardu zilzalaha. Et dans la deuxième rak'ah, tu lis qul ya ayyuhal kafirun. Donc fais-le de temps en temps, mon frère, ma soeur, faites ça de temps en temps pour avoir le ajr de suivre le prophète alayhi salam et en même temps de vivifier sa sunnah et de la propager entre les gens. De temps en temps, après le huître, tu t'assois et tu lis dans la première raka, tu lis Fatiha et il est zuzilet, et dans la deuxième raka, tu lis Fatiha et qul ya ayyuha al-kafirun. Naam. Tayyib. On s'arrête inshallah ta'ala ici, mais il reste 3 minutes pour faire 21h. Il reste 23h08. Il reste 3 minutes. Je les termine très vite en disant quant à la prière du vendredi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait dans la première Al-Jumu'ah, sorte Al-Jumu'ah, et dans la deuxième sorte Munafiqun, les hypocrites, quand les hypocrites viendront à toi. Ou alors Sabbih Al-Ghashiyah, Sabbih Al-Ghashiyah. Et des fois Al-Jumu'ah plus Al-Ghashiyah, Al-Jumu'ah plus et des fois sortent les hypocrites plus le rachia. Mais la plupart du temps c'est Jumu'ah, les hypocrites, et Sabbih, puis le Rashiya. Quant au Aïdain, l'Aïd, la prière de l'Aïd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait parfois Sabbih dans la première raka'a, et dans la seconde, surat al-Ghashiya aussi. Et parfois, Qaf dans la première, et Iqtarabat al-Sa'a dans la deuxième, et aussi le Qamar, surat al-Qamar. Quant à la Janaza, c'est la dernière chose qu'on va dire, inshallah ta'ala, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans la prière de surat al-Janaza, la sunna, c'est de lire surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha. Naam. C'est ça la sunna. La première, tu lis surat al-Fatiha, plus une autre surah. Ensuite, il marquait un silence après le takbir. Donc, certains gens croient que quand on fait la prière des funérailles, la prière funéraire, salat al-janaza, et on dit aussi le jinaza avec kasr, salat al-jinaza. Ils croient que on ne lit pas le Coran, on dit seulement les doigts. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le hadith est sahih, il faut lire le Fatiha. L'Abbas, il l'a lu à haute voix, il a lu le Fatiha. Et il a dit, je l'ai fait exprès. Je sais que la sunna, on lit à voix basse, mais j'ai lu à voix haute pour que les gens m'entendent et sachent que on lit avec le Fatiha. Donc dans la première raka, on peut s'astaghfiru quand vous voulez, 5 minutes, il revient bi'idnillahi azza wa jalla. Non. Salam alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatuh. Inch'Allah, je ne suis pas encore prêt. Inch'Allah, je serai prêt dans 10 minutes. Inch'Allah, dans 10 minutes. S'il y a un frère ou une sœur qui a devant lui un enfant, Inch'Allah, qui veut nous lire le Coran, que ce soit un garçon ou une fille qui ne soit pas pubère, Inch'Allah ta'ala, il envoie quelqu'un, il envoie Ta'amallah ou la Obsenafiyah pour dire voilà mon nom. Et Inch'Allah ta'ala, on lui enlève le rouge. Pour qu'il récite un peu de Coran, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fais saut. Naam, alhamdulillah. Donc on commence, inshallah ta'ala. On commence, inshallah ta'ala, d'après le classement que je vais vous donner. D'après le classement, je vais vous donner, inshallah ta'ala. Une fois, c'est la salle. Et une fois, c'est un des deux frères. Bien Ta'amallah ou bien l'Akh Abdelkader. Ensuite, la salle et ensuite l'une des deux sœurs. Inshallah ta'ala. Abdul Malik, tafadhal, inshallah. Abdul Malik, tafadhal, inshallah ta'ala. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah. Naam, coupe là, inshallah. Salam wa alaykoum. Naam. Salam wa alaykoum wa rahmatoullah wa barakatuh. Dans un des précédents cours, vous avez dit qu'il n'y a pas de hadith qui prouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé de poignée d'entre le lavage de l'eau. Je répète, dans un de vos hadiths, pardon, dans un des précédents cours, vous avez dit qu'il n'y a pas de hadith qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé de poignée d'eau entre le lavage de la bouche et le nez. Cela veut-il dire que lorsque on recrache l'eau de la bouche dans nos mains, on en remet dans le nez et devons-nous refaire des ablutions pour chaque prière, même si nous encore en pureté? Bon, là, j'ai pas compris. C'est dommage, j'ai pas compris ce qu'il a voulu dire. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Al-Awaisha hafidhahullah, dans son livre Mawsu'a al-Fiqhiyya, a dit qu'il n'y avait pas de hadith disant qu'il n'y avait pas de hadith où il est mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam yani séparé entre la bouche et le nez. Moi je crois seulement, je ne suis pas très sûr, d'avoir lu une fois un hadith quelque part, mais je ne me rappelle pas très bien de son nom, authenticité, un hadith de séparation. Je ne me rappelle pas très bien. C'est pour ça que je me base sur ce qu'a dit l'Awaïcha Hafidhahullah, qu'il n'y a pas de hadith, juste la preuve, inshallah ta'ala, du contraire. Maintenant la question, est-ce que cela veut dire que lorsque l'on recrache l'eau de la bouche dans nos mains et on le remet dans le nez, devons-nous refaire des ablutions pour chaque prière, même si nous ne pouvons plus rien? Est-ce qu'on doit cracher l'eau dans nos mains après avoir lavé la bouche et lavé avec celle-ci le nez? Non, ce n'est pas comme ça. Akhi Abdul Malik, quand on prend la poignée, notre main maintenant est pleine d'eau, tu as une poignée d'eau. En même temps, je rentre dans les deux. En même temps, je rentre dans la bouche, je rentre de l'eau dans ma bouche, et avec la partie supérieure où il y a mes doigts, je rentre l'eau dans mon nez. En même temps, je rentre dans ma bouche et ensuite dans mon nez. Et quand je commence à jeter, c'est le contraire. Je jette ce qu'il y a dans le nez, ensuite je jette ce qu'il y a dans la bouche. Naam, en même temps. Naam. C'est pas avec la seule poignée, on met d'abord dans la bouche, ensuite on met dans le nez. Naam. En même temps, quand tu prends ta main pour la faire avancer du visage, tu fais rentrer dans ta bouche et tu fais rentrer dans ton nez. Ça a besoin, inshallah ta'ala, d'un peu de disons un peu d'habitude, un peu d'entraînement. Tu t'entraînes 1, 2, 3, 4, 5 fois, ensuite inshallah ta'ala ça devient automatique. Ensuite il a dit est-ce qu'on doit, non, il a dit, et est-ce qu'on doit refaire les ablutions pour chaque prière même si on est encore en pureté? Non, on ne doit pas refaire les ablutions pour chaque salat, mais c'est préférable, c'est tout. C'est conseillé pour chaque salat de quoi? De renouveler les ablutions, même si on n'a pas encore perdu nos ablutions. Ça a un ajr, une récompense, mais ce n'est pas obligé. Tu peux faire avec la prière du dhuhr par exemple, tu peux faire le isha avec les ablutions du dhuhr, tu peux faire salat isha si tu n'as pas perdu tes ablutions. Et la même chose avec les ablutions du matin, tu peux faire la prière du asr par exemple et du dhuhr si tu n'as pas encore annulé tes ablutions. فيك بارك الله. تفضل عبد العزيز أو عبد القادر. أخ عبد العزيز في مدوني أن لين. Je vois un lien sur la robe, mais ça ne s'ouvre pas. Ce lien ne veut pas s'ouvrir. Je rappelle que le cours pour les enfants avec le frère Elbak est tous les 15 ans. Peut-être que Ta'am Allah n'a pas de questions. Je passe à Ourt Salafia. Ourt Salafia, est-ce que tu as une question? Ou là, Oum Seyfiddin. Assalamu alaikum, salam wa rahmatullah wa barakatuh. Pourriez-vous réexpliquer? Je n'ai pas tout saisi sur le dernier passage pour les deux rak'at que le prophète alayhi sallam faisait assis barakallahu fikum. Na'am. Quand on termine salat al-witr, quelqu'un a terminé salat al-witr, c'est de la sunna de faire de temps en temps deux rak'at après salat al-witr. Comment tu fais ces rak'at? Tu les fais en étant assis. Tu t'assois, tu dis Allahu Akbar et tu les fais assis. C'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu lis dans la première Ida zuzilatil ardu zilzalaha, et dans la deuxième Qul ya ayyuhal kafirun. Naam, voilà pour la réponse, inshallah ta'ala. Akh Farid, tafadhal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma khiratou. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, les chefs. Alhamdulillah, je vais mieux, bi'idhnillah azza wa jal. Ainsi que tous mes frères et sœurs en Allah. J'ai pas pu assister au DAS ce soir, donc pour mettre à jour le site, je demande à ceux qui l'ont enregistré de me faire savoir. Barakallahu fikoum. Naam. Maintenant, Abdelaziz, pose ta question, toi ou bien Abdelkader. Sinon, c'est Saif qui pose. Abou Soufiane, prépare-toi. Taïb. La sœur, est-ce que tu as une question, la sœur? Si on sait, je n'ai aucune question. C'est la fille, si tu as une question, pose pour les sœurs. Pose une question pour les sœurs. طيب ابو سفيان تفضل اخت سلفيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته جيتي une personne qui me levait souvent pour la prière de la nuit et depuis j'ai eu mes enfants j'ai de plus en plus de mal à me lever car la journée je dois m'occuper des enfants et c'est fatigant pour moi que les jugements vu que je l'ai délaissé. Naam. Inch'Allah, tu as entendu avec moi ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la personne qui faisait la nuit, la prière de la nuit, et l'a délaissé. Et que, yani, Inch'Allah ta'ala, on doit se rattraper, sans être fatigué, pour pas saisir. Dit nuit il a de la salat et demande Allah subhanahu wa ta'ala accepte l'excuse pas un, mais c'est sûr qu'il y a de la force et tu sens yani, la halawa de l'iman fais l'inchallah ta'ala au moins un mois une fois non tu ne peux pas s'adresse un pas chauffe frère tu comprends le chétan tu pas compris que ça c'est le vrai tu le comprends inchallah il y a plusieurs problèmes. Le prophète, dire c'est moi le grand jeu qu'il fait. Et dire c'est moi le prophète. Mais je crois que Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, quand on lui disait, et le Hassan aussi, Hassan Basri, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, donc il ne va pas, il chante 2 mètres. Donc le chef, description du prophète, là, avec d'autres personnalités, etc. Et il dit c'est moi le prophète. Être induit en erreur. Il est induit en erreur et il dit j'ai vu le prophète hier et comme une femme a dit je ne sais pas cette femme si elle m'avait écrit un email je ne sais pas où j'ai lu ça une femme a dit il m'a donné il va t'arriver ce qui est venu dans la tombe de Omar c'est pas Omar qui dit ça Omar, impossible qu'il touche la main une année. Là, tu ne connais pas religion. Il touche. Quelqu'un avec la et qui parle de versets et de hadith et qui va te dire tout ce qui va se passer. Tu vas te marier l'an prochain avec X et Y. Qui va personne qui écoute à celui-là. C'est quelqu'un pour prendre le fond. Mais tu dis bon, on la parle avec lui. Tu connais. Est-ce que les Khawarij est-ce qu'ils sont dans la guidée ou ils sont dans l'égarement? Ils sont dans l'égarement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le Coran mieux que eux? Allah fait que vous nasiha, la question par lui, mais comme clairement pour la nasiha, normalement, moi d'abord, parler de vous faire la prière. Mais si on a la souillure, on ne peut pas. On ne peut pas, et la souillure trouve, elle ne touche pas, on ne la voit pas. Si quelqu'un dans une petite bouteille, et la met parce qu'il a avec la souillure, ce qu'il peut faire, c'est les petits. Ni sur fond, téléphone. Farid explique. Et on nous rappelle du hadith qui dit de préserver son sexe. On dit déjà, voilà, fitna. Toute la journée, j'ai fini par ouvrir des images malfaisante et faire des choses pas bien. Et après, je sens, je suis dessus. Et à cause de ça, je n'arrive pas à avancer et ma compréhension, ma mémorisation devient difficile. Conseillez-moi, s'il vous plaît. Naam. Premièrement, il faut que tu saches, cher frère ou la chère sœur, que il nous est demandé de faire le djihad. Et que le djihad, ce n'est pas comme croient les autres, c'est seulement prendre les armes et tuer les gens, mais c'est d'abord le djihad nafs, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-mujahidu man jahada nafsahu fi dhatillah. Rawa Ahmed bi sanadin sahih. Allah Ta'ala a dit الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وكفت اسلام هذه المجاهد من جاهد نفسه في ذاته. Le vrai mujahid, c'est celui qui fait le djihad à son nafs, à son nafs, pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc surtout pour celui qui vit dans un pays de kufr, quelqu'un qui vit dans un pays de kufr et il n'a pas encore fait la hijra, yani vraiment, il a beaucoup de ajr pour le djihad qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il vit, yani au milieu, il vit dans les passions et les tentations. Et alhamdoulillah, il essaye de tenir et il tient. Et mashallah, celui-là, il a un grand ajr. Et surtout aussi les sœurs, car la femme, pour elle, c'est très très facile de faire yani, le haram si elle veut. Ce n'est pas comme l'homme. Et malgré cela, les tentations, etc., et elle est mashallah. Elle tient jusqu'à ce qu'elle rencontre Allah subhanahu wa ta'ala ravi d'elle et que inshallah ta'ala qu'il nous fasse tous rentrer au paradis. Donc n'oublie pas, mon frère, que tu es en plein djihad. Maintenant, est-ce qu'on a fait quelque chose pour Allah? On n'a rien fait. Seulement, on essaie de se retenir pour ne pas faire le haram. Ça demande des efforts, mais quand on fait quelque chose pour Allah, toute chose doit paraître khlas, doit paraître yani, petite. Naam. Pour la cause d'Allah, on doit laisser toutes les choses qu'on aime. On doit les laisser juste pour ravir Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour t'aider, il ne faut pas, par exemple, que tu t'asseyes, par exemple, et que tu fréquentes les gens, par exemple, mauvais. Les gens qui ne pratiquent pas la religion, les gens qui aiment les passions et les femmes et les cinémas, etc., la musique. Ceux-là, il faut t'éloigner d'eux. Il faut être tout le temps avec des gens qui aiment le dîme, qui aiment les doros, qui aiment lire les livres, qui aiment poser des questions, qui aiment écouter des cassettes. Comme ça, si tu faiblis, il t'aide à fortifier ta foi. Mais si tu es avec les autres, si tu faiblis, ils vont te faire enfoncer encore plus dans les tentations et dans les passions. C'est pour ça, inshallah ta'ala, essaye de faire la prière à l'heure, essaye de la faire en groupe à la mosquée, essaye de lire des livres, essaye d'écouter des cassettes, essaye de t'éloigner de la télévision au maximum. Maintenant, si tu vois des choses, essaye de voir le halal, c'est tout. Regarde des documentaires, regarde, mais ne va pas voir des films, etc. Non. Sinon, tu ne peux plus te retenir. Ensuite, quand on ne peut plus se retenir, c'est le shaitan qui a gagné. On fait quoi? On fait les péchés. Mais de toute façon, même si quelqu'un fait le péché, je sais que personne n'est infaillible, sauf celui que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu infaillible. Naam. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la asima, yani illa man asamahu, le ma'asum man asamahu Allah, le ma'asum man asamahu Allah. C'est pour ça qu'on renferme. Mais les portes, inshallah ta'ala, sont toujours ouvertes tant que la personne n'est pas morte. Donc, même si on a fait un péché, on reste, on acceptera. Allah subhanahu wa ta'ala acceptera, car c'est comme ça le croyant, il est debout, il tombe, jusqu'à ce qu'il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut qu'il fasse le maximum pour que être debout, le temps où il est debout, soit beaucoup plus long que le temps où il tombe. Naam. والله سبحانه وتعالى أعلم. تفضل ستاكيل توما تنجو لي بواسطة عن الله. طيب. Est-ce qu'il y a les deux sœurs? Est-ce que vous avez une question? نعم، اون كيار في بوزي اون كيستيون. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. N'étant pas arabophone, nous apprenons la langue arabe pour mieux comprendre le Coran. Mais en attendant ceci, attend le Hajj de lire le Coran en entier en arabe, même si on ne comprend pas forcément. Deuxième question, qui peut faire la hijama? Naam, on peut lire le Coran sans le comprendre, comme on peut le lire tout en se trompant lorsqu'on lit, on le lit difficilement. Ma'alish, on le lit. Naam. Yani Allah subhanahu wa ta'ala donne des récompenses pour celui qui le lit comme ça difficilement, et même si quelqu'un le lit et ne le comprend pas, il prend des récompenses pour la récitation, car c'est toujours la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu as lu. C'est pas une personne de X, c'est pas la parole de X ou de Y, mais quelqu'un qui lit et qui comprend aura plus de récompenses que celui qui lit seulement, et quelqu'un qui lit, qui comprend et qui applique aura plus de récompenses que celui qui lit seulement et comprend. Naam. Pour la hijama, qui peut faire la hijama? Qui peut la faire? Je n'ai pas compris qui peut la faire. Tout le monde peut la faire. Tout le monde peut faire la hijama. Je ne vois pas, je n'ai pas bien compris la question, qui peut la faire, ou bien à qui peut-on la faire? Si c'est qui peut la faire, tout le monde peut la faire. Si c'est à qui peut-on la faire, on la fait à tout le monde, sauf à quelqu'un qui, s'il perd du sang, il risque de s'évanouir et de devenir beaucoup plus malade. Il est très faible. Celui-là, on ne fait pas la hijama parce que il ne doit pas perdre de sang. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Abu Fida, tafadlal. Est-ce que la femme peut la faire à son mari? Bien sûr. La femme peut la faire à son mari, peut la faire à des sœurs, le mari peut la faire à sa femme, peut la faire à sa sœur, et comme ça. Naam. Il n'y a aucune interdiction. Abu Fid, assalamu alaykum. Cheikh, wa alaykum salam. Il y a une sunna à propos du 8 que je n'ai pas compris. Celle qu'on peut faire assise. Pouvez-vous réexpliquer, Barakallahu fik? Je ne sais pas si vous avez déjà répondu, mais je n'ai pas entendu la réponse. Naam, j'ai déjà répondu, mais tu n'as pas entendu la réponse. Ça ne fait rien. Moi, quand je répète, Inch'Allah ta'ala, Inch'Allah, j'ai un ajr. J'ai une récompense, Inch'Allah. Inch'Allah, si je le fais pour Allah. Maintenant, je ne sais pas pour qui je fais ces doros. Al-Muhim, quand on termine le 8, il est de la sunna, de temps en temps, de faire deux rak'at assis. De faire deux rak'at tout en étant assis. Tu lis dans la première rak'at Ida zulzilatil ardu zilzalaha, et tu lis dans la deuxième Qul ya ayyuhal kafirun, assis, tout en étant assis. Tu le fais de temps en temps. Tu peux lire ça chez Sheikh al-Albani rahmou, comme tu peux lire ça dans Zad al-Ma'ad de Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah. Naam. Tayyib. Inch'Allah ta'ala. Oum Abdelhaq, prépare-toi. Est-ce que les sœurs ont une question? Une question d'une sœur au sujet des abusants. Tafazali, c'est quoi la question? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais savoir si la femme qui a des pertes doit obligatoirement refaire les ablutions. Pour répondre, je dirais Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. À chaque fois que les pertes sortent de la femme, ses ablutions ont été annulées. Naam. Mais il faudrait qu'elle sache que les pertes ne sont pas de la souillure. C'est-à-dire que elle peut, sans se laver, faire directement les ablutions. Pourquoi? Parce que les pertes ne sont pas de la souillure. Mais à chaque fois qu'il y a des pertes, elle est obligée de refaire des ablutions, parce que chaque chose qui sort de cet endroit annule les ablutions. Mais je redis encore une fois que les pertes ne sont pas de la souillure. C'est-à-dire, pour une femme, elle peut, avec les pertes, sans laver les vêtements intérieurs, elle peut faire la salat Inch'Allah ta'ala. Et c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Naam. طيب. Oum Abdelhaq, tafadhali. Est-ce que j'ai enlevé le point rouge? Une seconde avant que je lise la question, donnez-moi une seconde. Hein. Je suis en train de chercher quelqu'un. Une seconde, je cherche quelqu'un dans la liste. Non. En ce qui concerne la prière de la nuit, est-ce qu'une personne qui prie avant de dormir et non pas au dernier tiers de la nuit a la même récompense que celle qui prie au dernier tiers, puisque toutes les deux sont des prières de nuit? La meilleure prière de la nuit, c'est celle qui est dans le tiers de la nuit. C'est celle qui est dans le dernier tiers de la nuit, parce que cette prière rencontre, elle sera faite au moment de la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, celui qui fait la prière avant de dormir, il a fait la prière de la nuit, naam. Mais la meilleure prière, c'est celle qui sera, avant le fajr, un peu avant le fajr, c'est-à-dire dans le dernier tiers de la nuit, où Allah subhanahu wa ta'ala sera descendu vers le ciel de la dunya pour dire: est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que je lui pardonne, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me demande, je lui donne, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un souhait, je l'exauce, et comme ça. Naam. Et pourquoi on a beaucoup plus aussi de récompenses? Parce que avant de dormir, la prière est beaucoup plus facile que lorsqu'on dort et on se lève et on jette la couverture. Faire les beaucoup plus difficile que de faire comme ça une prière avant de dormir. Et comme c'est difficile, Allah subhanahu wa ta'ala va donner des récompenses à cause de la mashaqqa. À cause de cette difficulté, Allah ta'ala donnera plus de récompenses. Mais inshallah ta'ala, toute la salat de la nuit, et masha'Allah, toute la salat de la nuit, que ce soit au début, que ce soit à la fin, c'est un dalil que cette personne est masha'Allah. Demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide pour qu'on fasse cette salat. Naam. Abu Junaid, tafadhal. Et les autres, si vous avez une question de poser là. Donc le vrai qui est celui du dernier tiers. Il faudrait que tu fasses la différence entre Iyam al-Lil et entre Tahajjud. Iyam al-Lil, c'est prière la nuit et qu'on veille. Et la plupart du temps, pour faire la prière dernier dormir, parce que c'est pas possible de la nuit. Et celui-là, il y a beaucoup plus de récompenses que de faire la prière la nuit avant de dormir. Non. C'est cette salat qui est beaucoup mieux que l'autre. Mais ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas bien. Non, l'autre est masha'Allah. Quand quelqu'un déjà, il fait 2 ou la 4 ou la 6 avant de dormir, ensuite il fait 8 et il dort, c'est masha'Allah par rapport à celui qui ne fait rien, qui fait seulement ce qu'on appelle les deux rawatib, et il fait le 8 et il dort. Celui qui ajoute 2, 4, 6, c'est masha'Allah. Mais celui qui se lève encore au dernier tiers, celui-là est mieux. Naam. Abu Junaid a dit: je vends du parfum pour hommes sur les marchés en Belgique et je voudrais aussi vendre du parfum pour femmes. Est-ce que c'est autorisé en sachant que certaines femmes en mettront sur elles? Barakallahu fikoum, vous pouvez me dire aussi si une chose halal au départ peut-elle devenir haram? Naam. Une chose halal au départ peut devenir haram. Je vais donner un exemple. Avant de te dire, je voudrais te dire que, qu'est-ce que j'allais dire? Non, que tu ne pouvais pas vendre le parfum aux femmes. Car comme tu as dit toi, elles en mettent. Non, elles vont mettre dans la rue. Et une femme dans la rue, c'est-à-dire, ou là dans la maison, elle sort un parfum. C'est comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zaniya. Donc c'est grave. Et toi, parfum, tu l'as aidé. Allah Ta'ala dit dans le Coran: La ta'awanu al-ithmi ul-udwan. ne vous entraidez pas pour l'ithm, les turpitudes et les transgressions, ou l'udwan. Non, c'est interdit. Maintenant, si quelqu'un vend un parfum à une femme pour qu'elle le mette à la maison, ce n'est pas interdit quand il a une assurance. J'ai une assurance que cette femme ne le mettra qu'à la maison. Mais comment puis-je avoir cette assurance? Je ne peux pas. Il faut que ce soit ma femme ou là, ma soeur ou là. Et ma soeur, je ne sais pas parce qu'elle n'est pas tout le temps avec moi. Je ne peux pas la surveiller. Non. Je disais que quelque chose pouvait être halal. Elle est halal, mais elle devient haram à cause de son utilisation. Par exemple, il n'est pas interdit de vendre un couteau. Tu rentres dans certains magasins, on vend des cuillères, des couteaux, des assiettes. Mais maintenant, si tu vois deux personnes en train de se bagarrer, ensuite l'une des deux personnes vient vers toi et te dit « Vite, vite, vends-moi un couteau, vite, c'est combien le couteau ?» Celui-là, il est interdit que tu lui vendes le couteau. Parce que qu'est-ce qu'elle va faire avec le couteau? Elle veut frapper la deuxième personne, c'est sûr. Regarde par exemple le pain. Le pain n'est pas interdit à être vendu. Le boulanger vend le pain. Mais toi, si tu es en train de vendre le pain, et tu sais que il y a une personne qui va venir maintenant acheter le pain parce que elle a acheté du porc et du vin avec des amis, et ils vont aller faire un pique-nique et boire le vin et manger le pain, pas lui vendre au pique-nique du vin, etc. Donc une chose peut être au départ elle est halal, mais à cause de son utilisation elle devient haram. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. Hussein Tunsi tafadhal. Fais saut. Pas question. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah yazidik ilman nafian. Amin. Allah, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous ajoute à nous tous et à nous et à vous tous et toutes ilman nafian. Ilman nafian. Naam. Une question des frères pour son épouse. Voilà, elle a fait hijra dans un pays musulman, elle est enceinte. Et sachant que dans ce pays, le taux de mortalité lors de l'accouchement est élevé. Vous voulez savoir si elle peut revenir dans un pays musulman pour mettre son enfant au monde? Barakallahu fik. Le taux de l'accouchement est élevé. Le taux de mortalité. Non. Premièrement, c'est elle qui sait. Non, c'est elle qui sait si vraiment le taux de mortalité est élevé comme elle dit. Non, moi je ne sais pas cela. Et quand quelqu'un va dans un pays de Kofr ou là pour une maladie ou là pour un soin ou là pour un commerce ou là pour des études ou là, ce n'est pas interdit. Non, ce n'est pas interdit. Si elle est sûre, elle a des preuves plausibles et valables que le bébé risque de mourir par exemple, et que si elle va dans un pays de Kofr, Inch'Allah ta'ala, il vivra, et que l'accouchement sera dans le halal, c'est-à-dire il y a des femmes qui la font accoucher, sauf si c'est dans la daroura, l'homme peut rentrer dans la daroura, khlas. Et pourtant, beaucoup de ulama ont dit qu'il n'y a pas de daroura. Beaucoup de ulama, j'ai lu comme Cheikh Fouzan et les autres, on dit dans l'accouchement, il n'y a pas de daroura pour que l'homme fasse accoucher une femme. Ils ont dit ça, c'est jamais vu en islam. Toutes les femmes, toute notre grand-mère et nos aïeules, toutes ont accouché sans la présence d'un homme. La femme appelait seulement sa voisine et elle la faisait accoucher, même si sa voisine n'a jamais accouché ou n'a vu l'accouchement. Allah subhanahu wa ta'ala a facilité cette chose pour les femmes. C'est pour ça qu'en islam, Il est interdit à un homme d'étudier gynécologie. Non, il est interdit en islam à un homme d'étudier la gynécologie. Bon, ce n'est pas il est interdit de l'étudier, il est interdit de la pratiquer. S'il veut l'étudier, ce n'est pas interdit. Il l'étudie, il la pratique sur sa femme. Quand elle doit accoucher, il l'aide. Mais jamais avec une femme étrangère. Un homme n'a jamais le droit de rentrer dans une femme pour l'accoucher ou la l'aider à accoucher, etc., etc. Mais maintenant, de nos jours, sauf quand c'est très difficile et qu'elle va subir une césarienne, etc., elle risque de mourir, etc., dans ce cas seulement, peut-être qu'il lui est permis. Mais comme certaines femmes, elles vont directement chez un homme pour les faire accoucher, ça c'est vraiment haram. Et beaucoup de femmes vont aussi très facilement chez un homme pour, par exemple, placer le stérile. Agra, facilement, elle va chez un homme juste pour placer un stérile qui n'est pas une darura. Et d'autres femmes vont très facilement chez un homme pour faire juste une auscultation. Une petite auscultation, elle doit enlever ses vêtements, il va mettre sa main, il va faire ceci, cela, très très facilement, certaines se le permettent. Et ça, c'est un délit de la piété qui est faible. Quand on a la piété, on ne permet pas comme ça facilement de me découvrir devant un médecin, sauf si c'est vraiment la darura. C'est vraiment darura. Mais ce n'est pas pour un stérile ou là que je vais me déshabiller devant un homme. Non. Allah al-Musta'an. Qu'est-ce qu'on dit? Allah subhanahu wa ta'ala al-Musta'an. Non. Donc, voilà, inshallah ta'ala, pour la question. Pour la question. Non. Notre frère a dit, je voudrais inshallah que vous m'expliquiez la description de Salat al-Tasbih. Non. Salat al-Tasbih se trouve dans beaucoup de livres. Et Salat al-Tasbih, c'est une salat qui est vraie. Cheikh Al-Albani a dit, elle est authentique. Non, elle est authentique. Combien de rak'a, à quel moment, quelles sont les invocations spécifiques à cette prière? Est-il vrai qu'on doit l'accomplir au moins une fois dans sa vie? Ça, on doit l'accomplir au moins une fois dans sa vie. Si on ne peut pas, au moins une fois par mois. Si on ne peut pas, au moins une fois par semaine. Si on ne peut pas, au moins... Ah, c'est le contraire. Yani, si on peut, on l'accomplit une fois par jour. Si on ne peut pas, une fois par semaine. Si on ne peut pas, une fois par mois. Si on ne peut pas, une fois par an. Et comme ça. Si on ne peut pas, au moins alors, une fois dans la vie. Une fois dans la vie. Naam. Comment qu'on l'a fait exactement, j'ai un peu oublié. Il faut que je revienne vers le livre, mais je... Je sais que, yani, on lit d'abord, on lit Fatiha, on lit une surat, ensuite on dit, subhanallah, on doit faire le cas, si je n'ai pas oublié. Je l'ai 30 ou la 40 ans, je l'ai fait seulement une fois ou deux fois dans ma vie. Mais attends, inshallah ta'ala, que je te cherche un livre devant moi, attends, pour être sûr et que je ne dise pas quelque chose de faux. Une seconde, inshallah ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce que l'Akhima est là? Houssin Toulsi. Car c'est lui qui a posé la question. Est-ce qu'il est là, Houssin Toulsi? Naam. Pas de son. Samir Abu Ayyub. C'est toi qui n'as pas de son. Hein? Les autres, ils ont le son, inshallah ta'ala. Il lui a dit, fassali arba rak'at. Il lui a dit, fais 4 salat tasbih. Il a dit, c'est combien? C'est 4 rak'at. Fais 4 rak'at. Taqra'u fi kulli rak'a bi fatihati kitab. Tu lis dans chaque rak'a avec la fatiha. 4 rak'at, rak'a plus une sourate. Plus une sourate. Quand tu termines la sourate, qu'est-ce que tu fais? Avant le recours. Avant le recours. Tu fais la prosternation, tu dis 10 fois. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ensuite, tu lèves ta tête pour t'asseoir, tu dis 10 fois. Combien? Tu tombes, et tu fais la deuxième 10 fois, et tu te lèves. Les rak'as. Soit tu feras dans chaque rak'as, Inch'Allah ta'ala. Est-ce que vous avez compris la ta'ala? Non. Sinon, Inch'Allah ta'ala, j'expliquerai, Inch'Allah ta'ala, la prochaine fois, Inch'Allah ta'ala. Non. Inch'Allah ta'ala. D'Alger, t'fadal. 75, non. Ça fera 60. Tu. الله يجزيك بكل خير في الدنيا الأخيرة لنا ولكم إن شاء الله تعالى لي الدرجة تفضل إن شاء الله تفضل وتفضل أقسم لما فيش فيه صوت أسألوا في كيستيون إن شاء الله تبدو كون دو موا la femme qui reste chez ses parents à cause d'une dispute avec son mari considéré comme divorcé, sachant que je le répète, une dispute avec lui doit être impossible. Il est nulle part, il est divorcé. Divorcé, il fait. Puisqu'il n'est pas arrivé à des questions. Il n'est pas amour à le sang, il n'a pas. Monsieur. Salam alaikum wa rahmatullah. Fils saute. Non. La soeur, une soeur avait demandé aux questions. Pardon. En ce qui concerne le parfum, quand on le vend à une mécréante. Naam, c'est la même chose. On ne lui vend pas pour ne pas l'aider à faire le haram. Comme on ne vend pas, comme on ne vend pas à un kafir, on ne lui vend pas le vin. Même si lui, il le boit, pour lui, c'est pas haram. Mais moi, je ne lui vends pas une chose qui est haram, pour qu'il la fasse. Naam. Ensuite, qu'est-ce que vous appelez donner signe de vie? Non, des fois un homme, par exemple, part à l'étranger. Supposons qu'il y a un couple d'Algériens qui habitent en Algérie. L'homme part à l'étranger, il ne donne plus signe de vie. Un an, deux ans, trois ans, quatre ans, il n'y a rien. Cette femme, elle va chez le juge, il la divorce directement. Non, il la divorce, elle fait la période de viduité. Pourquoi? Il n'a plus donné signe de vie. Et c'est le juge qui va décider, il va dire par exemple je te donne 3 mois, je te donne 6 mois, je te donne, et Inch'Allah tu reviens pour que je te divorce. Pourquoi? Parce que c'est impossible à une femme de rester comme ça suspendue. Elle n'est ni mariée, il n'y a pas son mari, ni divorcée pour qu'elle puisse se marier. Non. C'est pour ça que s'il y a une dispute entre un homme et une femme, normalement bien sûr, normalement, elle reste à la maison, dans la maison de son mari. Pour qu'on ne sait jamais, Allah subhanahu wa ta'ala mettre dans le cœur, il y a un accord, et qu'ils reviennent d'accord, et qu'ils reviennent d'accord. Et maintenant, si elle a peur, ou il la frappe, ou il la menace de la tuer, etc., elle va chez ses parents, le temps de trouver, Inch'Allah ta'ala, une solution. Le temps de trouver, Inch'Allah ta'ala, une solution. Mais, les ulama disent toujours que le divorce, c'est très difficile de demander comme ça, de parler de divorce comme ça, par exemple, dans Internet ou là, car personne ne peut répondre s'il ne connaît pas tous les détails. Un petit détail peut tout changer. Il peut renverser la balance et donner raison à l'homme au lieu de la femme, ou bien à l'épouse au lieu de l'époux. Un seul détail. C'est pour ça que comme ça c'est quelque chose de général, il est très, très difficile de répondre. Il est très difficile. Les ulama disent toujours, quand c'est quelque chose de divorce, ils vont chez le qadi. Le qadi, c'est le juge musulman. Ils vont chez le juge musulman, ils lui racontent, et lui, Inch'Allah ta'ala, il prend quoi? Il prend la responsabilité. Car le juge musulman a le droit de faire divorcer la femme de son mari, même si lui, il ne consent pas. Même si le mari ne veut pas la divorcer, le juge peut la divorcer. Naam. Si par exemple le mari veut la forcer à faire, par exemple, le haram avec elle, il la force, par exemple, pour la sodomie. Naam. Elle va chez le juge, il la divorce automatiquement. Même si lui, il ne veut pas, il dit c'est ma femme, c'est ceci, cela, ce n'est plus ta femme. Naam. Quant à la sœur, naam, elle avait demandé ce qui concerne le parfum. J'ai dit que même pour une kafira, on ne le vend pas. Mais elle avait demandé quelque chose auparavant, je ne sais pas ce que c'est. J'ai oublié maintenant c'est quoi. Naam. J'ai oublié c'est quoi. Abu Bilal, tafadhal, vite, parce qu'il reste 10 minutes, inshallah ta'ala, et il sera minuit 30. Il sera minuit 30. Tu dois m'arrêter, Inch'Allah ta'ala. Et n'oubliez pas, Inch'Allah ta'ala, que le dos sera samedi et que dimanche, Inch'Allah ta'ala, j'ouvrirai spécialement dans la section Europe, dans la salle, le chemin du paradis. et que je commençais ou bien à faire, inshallah, la vie des prophètes, ou bien à expliquer Riyad Salih. Inch'Allah ta'ala, je réfléchirai, je verrai. Seulement, peut-on faire les ablutions en passant régulièrement une fois sur les membres, en faisant couler l'eau du robinet sans perdre, en faisant les bases une seule fois sur chaque membre. C'est le minimum